VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 8 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Les titres pour commencer. En Guinée, 4 policiers et 1 gendarme ont été interpellés suite à la mort d'un jeune tué par balle en marge d'une manifestation. Au Sénégal, l'opposition se dit prête à défier une interdiction de manifester ce mercredi. En Côte d'Ivoire, Adama Big Togo, cadre du parti au pouvoir, a été élu président de l'Assemblée nationale. Au Cameroun, 9 civils, dont un bébé, ont été tués par des soldats en zone anglophone. Au Nigeria, le parti au pouvoir a commencé à voter dans la nuit de mardi à mercredi pour désigner son candidat à la présidentielle de 2023 lors d'une primaire à Abuja. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky promet une défense héroïque dans les combats intenses de Severodonetsk. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La justice guinéenne a annoncé hier l'interpellation de 4 policiers et d'un gendarme dans l'enquête sur la mort d'un jeune tué par balle en marge d'une manifestation autour du prix des carburants. Nani Talani.
Selon le procureur général Alphonse Charles Wright, un gendarme et 4 policiers ont été interpellés et sont tous en garde à vue sur son instruction. Lundi, il avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire, ordonnant que lui soit communiqué sous 3 jours les noms de tous les policiers sur le terrain le jour de la mort de Thierno Mamadou Diallo. Le jeune homme de 19 ans a été tué par balle le 1er juin lors de heurts entre forces de sécurité et manifestants contre la hausse des prix du carburant. Il se trouvait dans une échoppe lorsqu'il a été atteint par un projectile. De telles interpellations et le fait qu'elles soient rendues publiques sont exceptionnelles dans un pays où les forces de l'ordre sont souvent montrées du doigt pour leur usage excessif de la force et l'impunité dont elles ont toujours bénéficié sous tous les régimes en Guinée. Et plus récemment, entre 2019 et 2021, des dizaines de Guinéens ont été tués lors de manifestations contre un 3e mandat du président Alpha Condé. Jusqu'ici, aucun policier ou gendarme n'a jamais eu à rendre des comptes.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko se dit déterminé à braver en masse une éventuelle interdiction de manifester aujourd'hui avec ses partisans contre le rejet de sa liste aux prochaines législatives, Michel Joseph.
Soit on nous laisse manifester et le pays sera en paix, soit il faudra tous nous arrêter, a déclaré Ousmane Sonko devant la presse alors que sa coalition Yewi Askanoui attendait toujours la décision de l'administration d'autoriser ou d'interdire la manifestation prévue aujourd'hui vers 15h GMT. Cette coalition d'opposition avait annoncé ce rassemblement avant la décision du Conseil constitutionnel qui a confirmé le rejet de la liste sur laquelle figurent M. Sonko et d'autres personnalités pour les élections législatives du 31 juillet. M. Sonko a qualifié cette décision de forfaiture. Les autorités reprochent à la liste de l'opposition qu'une de ses candidates est à la fois parmi les titulaires et les suppléants. Le Conseil constitutionnel a aussi rejeté la liste des suppléants de la majorité présidentielle, lui reprochant d'avoir manqué aux règles de parité hommes-femmes.
En Côte d'Ivoire, Adama Big Togo, cadre du parti au pouvoir, a été élu hier président de l'Assemblée nationale avec le soutien des députés de la majorité et de l'opposition, un mois après le décès de son prédécesseur Amadou Soumaoro. Le point avec Ginny Nua.
Adama Big Togo, 59 ans, a largement battu son adversaire, le député Jean-Michel Amankou, par 237 voix à 6. Monsieur Big Togo a bénéficié du ralliement des principaux partis d'opposition, y compris du PDCI, l'ancien parti au pouvoir, dont est pourtant issu son rival Jean-Michel Amankou. Les groupes parlementaires d'opposition, dont le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédier et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, ont appelé leurs députés à voter Big Togo. Député de la commune d'Aboville, au nord d'Abidjan, depuis 2011, M. Biktogo a occupé plusieurs fonctions au sein du RDR, le parti du président d'Alassane Ouattara. Il était aussi vice-président par intérim de l'Assemblée nationale depuis avril 2021, en l'absence d'Amadou Soumaro, qui a été absent de longs mois avant son décès le 7 mai. Parallèlement à sa carrière politique, M. Biktogo est le PDG du groupe ivoirien SNEDAI, qui produit des passeports biométriques.
Au Nigeria, les délégués du parti au pouvoir, l'APC, ont commencé à voter dans la nuit de mardi à mercredi pour désigner leur candidat à la présidentielle du 25 février 2023 lors d'une primaire organisée à Abuja. Une vingtaine de personnalités sont en lice. Le président Muhammadu Buhari, qui achève ses deux mandats, ne peut pas se représenter à ce scrutin. Au Cameroun, 9 civils, dont un bébé, ont été tués le 1er juin par des soldats dans le nord-ouest anglophone, théâtre depuis 5 ans d'une guerre entre l'armée et les séparatistes, Claire Morin-Gibourg.
Le ministère camerounais de la Défense a évoqué une méprise. 4 soldats qui recherchaient l'un des leurs à Missong, un hameau de la région du nord-ouest, ont tiré dans une réaction inappropriée et manifestement disproportionnée sur un groupe de villageois. 4 femmes, 4 hommes et une fillette de 18 mois ont été tués. Les 4 militaires sont aux arrêts selon le ministère. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, anglophones, sont le théâtre d'une guerre entre des rebelles séparatistes et les forces régulières. Les séparatistes, comme les militaires et les policiers, sont régulièrement accusés par l'ONU et des ONG internationales de crimes contre les civils. Selon les Nations Unies, depuis fin 2016, ce conflit a fait près de 6000 morts et plus d'un million de déplacés.
Plus de 800 djihadistes ont été tués en 2 mois sur des îles du lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, dans des opérations de la FMM, a assuré mardi la force conjointe de ces pays. Étaient visés des terroristes de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, les chefs des armées des États de la Communauté d'Afrique de l'Est ont clôturé une réunion hier à Goma, selon le communiqué final signé par le général de brigade congolais Sylvain Ekenge. Cette réunion portait sur des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Elle fait suite à celle des chefs d'État de la région qui s'est tenue le 21 avril à Nairobi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une commission parlementaire présentera demain jeudi ses premières conclusions de l'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 lors de la certification des résultats de la présidentielle. Ce sera lors d'auditions publiques diffusées en direct à la télévision. En Ukraine, des combats intenses se poursuivaient ce mercredi pour le contrôle de Severodonetsk, dont Moscou affirme avoir libéré les zones résidentielles, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vante la défense héroïque de cette ville clé du Donbass. Le gouverneur de la région de Lugansk, qui avec celle de Donetsk forme le Donbass, a assuré sur Telegram que les Russes ne contrôlent pas la ville, mais il a reconnu qu'il est très difficile de tenir Severodonetsk, parlant même de mission impossible. Par ailleurs, discussion ce mercredi à Ankara entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc Mevlüt Cavusoglu sur la création de couloirs maritimes sécurisés pour l'exportation de céréales par la mer Noire suite à la flambée des prix et face à la menace d'une famine dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient, la Turquie a proposé à la demande de l'ONU son aide pour escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens. Drame ferroviaire en Iran. Au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées mercredi lorsqu'un train a déraillé après avoir heurté une excavatrice dans le centre de l'Iran. Le bilan pourrait même s'alourdir, selon le porte-parole du Service national des secours, cité par la télévision d'État. L'officiel précise que le train transportait 348 passagers. À Alexandria, près de Washington, une djihadiste américaine transférée de Syrie en janvier a plaidé coupable de soutien matériel à une entreprise terroriste à l'issue d'une dérive radicale qui l'a menée au poste rare de chef d'un bataillon féminin du groupe État islamique. Alison Flouk Ekren est une ancienne institutrice et mère de famille de 42 ans. Sa peine sera prononcée le 25 octobre. Elle encourt jusqu'à 20 ans de prison. La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Les manifestants qui bloquaient l'est du Soudan et ses ports vitaux pour l'économie du pays ont annoncé mardi lever leur blocus après la démission du gouverneur qu'ils jugeaient trop enclin au compromis avec le pouvoir central. Les importations et exportations du Soudan, du Tchad, de l'Éthiopie et de la République centrafricaine, ainsi que le pétrole du Soudan du Sud transitent par les ports soudanais de la mer Rouge. La Tunisie prévoit de revoir les subventions étatiques aux produits de base qui grèvent fortement son budget, a indiqué mardi le gouvernement. La ministre de l'Industrie a pour sa part fait état d'ajustements systématiques dans les prix des carburants, de l'électricité et du gaz pour alléger le fardeau des subventions. La Banque mondiale a fortement revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale en raison de la guerre en Ukraine. Elle alerte sur les risques d'une stagflation, une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée. La Banque mondiale prévoit désormais une hausse du produit intérieur brut mondial de 2,9% contre 4,1% estimé en janvier. L'institution s'attend en effet à ce que ce rythme de croissance perdure jusqu'en 2023-2024.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, après sa défaite inaugurale face au Gabon à Kinshasa, la RD Congo tentera de se relancer face au Soudan. De leur côté, les Panthères gabonaises voudront enchaîner devant la Mauritanie. Opération relance également pour le Bénin qui fait face au Mozambique, tout comme le Congo qui accueille la Gambie. La Tanzanie reçoit l'Algérie et le Niger se déplace en Ouganda. Hier, le Burkina Faso a enchaîné une deuxième victoire dans ses éliminatoires face à l'Eswatini, battu 3-1. Le Cap-Vert a dominé le Togo 2-0. La Zambie a eu raison des Comores 2-1. Le Sénégal a eu le dernier mot face au Rwanda 1-0. À la 94e minute sur un pénalty de Sadio Mané. Deuxième victoire donc pour les Lions de la Teranga. 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
En Europe, l'Italie retrouve des couleurs en Ligue des Nations.
L'Italie a battu la Hongrie 2-1 lors de la deuxième journée de cette Ligue des Nations, prenant la tête du groupe après son nul initial contre l'Allemagne. Il fallait une victoire pour bien repartir à savourer Gianluigi Donnarumma, capitaine de cette nationale. Cette victoire permet à l'Italie d'aller défier samedi un leader, l'Angleterre revancharde un an après la finale de l'Euro. Dans un classique du foot mondial, l'Allemagne et l'Angleterre se sont neutralisés à Munich 1-1. Harry Kane a marqué son 50e but en sélection anglaise sur penalty à la 87e minute, répondant à l'ouverture du score de Jonas Hofmann à la 51e minute.
Mondial 2022, l'Australie s'offre un match décisif pour la qualification.
Grâce à sa victoire 2-1 contre les Émirats arabes unis en match de pré-barrage de la zone Asie, l'Australie jouera son va-tout dans la course au Mondial Qatar 2022 contre le Pérou le 13 juin. Le vainqueur de ce barrage intercontinental Asie-Amérique du Sud héritera d'une place dans le groupe D, comprenant les Tunisiens, les champions du monde français et les Danois. La sélection péruvienne vise une 6e qualification au Mondial, les Australiens une 5e. Le 14 juin, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande se départageront pour une place dans le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.
Début ce mercredi du procès de Michel Platini et Sepp Blatter en Suisse.
Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, comparaissent pour escroquerie à partir de ce mercredi en Suisse dans l'affaire du paiement suspect qui a brisé en 2015 leur trajectoire aux commandes du football mondial. Les deux alliés devenus rivaux sont accusés d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 1,8 million d'euros. Ils encourent 5 ans d'emprisonnement et une amende.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a donc rejeté l'intégralité des recours introduits par les différents acteurs politiques, confirmant l'absence de suppléants sur la liste de la coalition au pouvoir et le rejet de la principale liste de l'opposition dirigée par Ousmane Sonko. Une situation qui a conduit à des appels à manifester par les camps opposés. Pour une partie de la population, les hommes politiques devraient plutôt penser plus à la souffrance des populations face à la vie chère et de plus en plus difficile. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagué.
L'appel à manifester de l'opposition pour aujourd'hui, mercredi 8 juin, est le contre-appel lancé par la coalition au pouvoir. Trouve certes un écho favorable du côté de leurs propres militants, mais certains citoyens, comme Nima Sadio, estiment que la situation sociale du pays et les récents problèmes sécuritaires ont montré que les politiciens ne s'intéressent pas tant aux problèmes des populations.
Et je pense que pour ceux qui prétendent en tout cas être là pour la population, je pense que c'était le moment de montrer à la population que nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous protéger. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a peu d'entre eux qui se sont prononcés, cela nous pousse à nous dire qu'ils ne s'intéressent pas de notre sécurité, en fait. Ça ne les préoccupe pas.
Ces batailles entre adversaires politiques impliquent souvent des institutions, mais pour les citoyens, les politiciens doivent éviter de les mêler à leurs histoires pour ne pas affaiblir les fondements de la démocratie sénégalaise, d'après Boubacar Dia.
Mais nous, en tant que Sénégalais, on sait que nous devons fortifier ces institutions-là, nous devons les renforcer, parce que si nous affaiblissons ces institutions, demain, ceux qui sont dans l'opposition pourront être au pouvoir et ils n'accepteront pas que l'opposition dise la même chose que ce qu'ils disaient au pouvoir en place.
La difficulté de l'exercice consiste à tenir l'équilibre entre l'obligation de l'État de garantir la sécurité des citoyens et la nécessité de respecter les exigences de l'État de droit. Ces propos tenus par le président du Conseil constitutionnel dans le quotidien national Le Soleil sont en déphasage avec les missions de l'institution, d'après le juriste consultant Ibredien.
L'équilibre social, le maintien de l'ordre public ne relève pas du juge constitutionnel. Le juge, son rôle, c'est de rappeler la loi applicable. Aujourd'hui, moi, j'attendais à un juge constitutionnel de nous dire que j'ai rappelé telle loi qui a été applicable et qui est toujours en vigueur. Mais si le juge se cache effectivement derrière cet équilibre social-là, derrière ce trouble à l'ordre public que le Conseil ne peut pas pallier, il essaie effectivement de pallier l'équilibre social. Mais il peut semer le désordre. Il peut semer effectivement le trouble à l'ordre public sans le savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout contents.
Pour l'heure, la période préélectorale s'annonce plus que tendue au Sénégal, avec des positions tranchées et très divergentes entre les acteurs politiques et les institutions chargées de réguler le processus électoral. Ces tensions sont déjà palpables par la grande manifestation convoquée par l'opposition ce mercredi 8 juin 2022 à la place de la Nation. Seydina Abagué, Dakar, pour VOA Afrique.
De hauts responsables de la sécurité du Cameroun et de la République centrafricaine ont convenu de joindre leurs efforts pour combattre les rebelles centrafricains qui, selon eux, s'infiltrent dans les camps de réfugiés au Cameroun. À l'issue d'une réunion dans la ville de Ngaoundéré, les délégations ont fait savoir qu'elles déploieraient conjointement leurs forces armées pour lutter contre la prolifération des armes et les enlèvements contre rançon. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Des rebelles et des groupes armés s'infiltrent dans des villes et villages situés aux abords de la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique, affirment de hauts responsables gouvernementaux et militaires de ces deux pays. Kildadi Tagieke Boukar est le gouverneur de la région camerounaise de l'Adamawa, où se trouve Ngaoundéré. Les présidents camerounais, Paul Biya et centrafricain, Faustin Archange Touadéra, sont préoccupés par la présence de groupes armés et de rebelles centrafricains qui mettent à mal leurs efforts pour encourager la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Le gouverneur Kildadi Taguieke-Boukar s'est exprimé via WhatsApp depuis Ngaoundéré.
Les deux pays ont des ambitions claires d'en finir avec cette insécurité liée au vol de bétail, liée également au trafic de toutes sortes. C'est une frontière qui est écumée par des malfrats et par les rebelles centrafricains. Et il fallait donc que les deux chefs d'État se concertent pour pouvoir permettre que la sécurité, la paix va régner à cette frontière, ce qui permettra aux populations, aux biens et aux services de circuler comme il se doit. Et cela donc va permettre qu'il y ait une croissance économique au niveau de nos deux pays.
Pour sa part, le général Freddy Johnson Sakama, chef des opérations militaires de la République centrafricaine, était à la tête de la délégation de son pays.
Nous avons eu la multiplication des groupes armés sur notre territoire. Donc cela pose vraiment un problème, non seulement au niveau de notre pays, mais tous nos voisins sont aussi concernés. Il y a eu des efforts du gouvernement qui a pu maximiser un rendement dans le cadre du rétablissement de la sécurité sur le territoire centrafricain avec l'appui de nos partenaires, notamment les partenaires bilatéral. Et la MINUSCA.
S'exprimant sur la chaîne nationale camerounaise, le général Sakama a révélé que son pays a accepté de collaborer avec les militaires de tous les États voisins pour mettre fin à l'insécurité transfrontalière causée par les rebelles et les groupes armés présents en Centrafrique. En mars, la MINUSCA a signalé que les rebelles ont quitté plusieurs villes qu'ils avaient occupées et qu'ils ont traversé la frontière pour échapper au combat avec l'armée centrafricaine. Le Cameroun affirme que certains de ces rebelles sont déguisés en réfugiés. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a visité Gado Badzere, un camp de réfugiés à la frontière avec la RCA.
Certains ex-combattants viennent se cacher dans les camps de réfugiés. Et dans les camps de réfugiés, ils continuent à mener les activités illégales. Le trafic des stupéfiants, la vente des armes et des munitions et tout ce qui est illégal. Donc il y a une démarche à faire pour que les responsables du HCR, ils doivent être sensibilisés.
Selon Bangui, 14 groupes rebelles, dont celui dit des 3R, combattent le gouvernement, ce qui rend difficile les efforts de paix. Selon l'ONU, les combats en RCA ont forcé près d'un million de Centrafricains à fuir vers les pays voisins, dont le Cameroun, le Tchad et la République démocratique du Congo.
Au Togo, la saison de ramassage des noix de karité bat son plein. Plus de 200 000 femmes inscrites dans des groupements s'activent dans les régions de production après 2 ans de ralentissement dû au Covid-19. L'espoir renaît pour ces femmes, nous dit de Lomé notre correspondant Kossi Wousso.
Dans la préfecture d'Est Mono, dans la localité de Lavagnon, Hélène Yawavi ne perd plus de temps. C'est la période pour le ramassage des noix de karité. Ensemble avec les 10 autres femmes de son groupement dénommé La Grâce, elle compte s'investir davantage malgré les dangers qui les guettent souvent.
En ce moment, les noix de karité tombent déjà. Nous allons donc en brousse pour le ramassage avec tout ce que ça comporte comme danger. Les morsures de serpents, les piqûres de scorpions et bien d'autres désagréments. On nous soutient avec une ou deux bottes, mais c'est insuffisant. Mais nous continuons. Depuis qu'on s'est regroupés en coopérative, ça va pour nous. Grâce à cette activité, beaucoup de femmes arrivent à mettre leurs enfants à l'école et à subvenir aux besoins de la famille.
La restructuration de la filière est l'œuvre de Elisabeth Tchala, à la tête de la Fédération interprofessionnelle de karité du Togo.
Pour moi, c'est une fierté de les voir aujourd'hui sortir de la pauvreté, d'être autonomes. Vous verrez les femmes, comment elles font pour faire que le karité devienne un produit. Non seulement qu'on peut manger, mais aussi dans les cosmétiques. Le district du karité au Togo a devant lui un bel avenir et ce sera un exemple pour les autres filières.
Le beurre de karité n'est pas à l'abri du changement climatique car il fond à la moindre chaleur. Les arbres producteurs de noix de karité aussi disparaissent chaque année. L'État vient de lancer le 1er juin une vaste campagne de reboisement dans tout le pays. L'Alliance globale de karité prend elle aussi des mesures. Simbala Sila, président de l'AGK.
L'AGK, l'Alliance globale de karité, a mis en place un fonds qu'on appelle Fonds de restauration des parcs à karité. L'objectif majeur de ce fonds, d'abord, c'est de protéger les parcs, les arbres que nous avons déjà, de passer par la sensibilisation, la communication, l'information pour qu'on les protège. Parce que c'est la ressource principale aujourd'hui que nous avons. Et deuxièmement, on veut aussi planter des arbres. Notre objectif aujourd'hui est de planter 10 millions d'arbres sur les prochaines années à venir.
Pour le moment, la cagnotte n'est garnie que de 47 000 $ pour une plantation de 10 000 arbres. Une réunion internationale des acteurs de la filière karité se tient en ce moment dans la capitale togolaise et va essayer de trouver les voies et moyens pour atteindre les objectifs de l'Alliance globale de karité. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Tenu cette semaine à Los Angeles du sommet des Amériques, mais les dirigeants de plusieurs pays boycottent l'événement diplomatique pour protester contre la décision des États-Unis de ne pas inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Le point avec Anita Powell et le récit avec Jacques Aristide.
Le sommet des Amériques accueille généralement les dirigeants de 34 pays du continent américain. C'est l'occasion pour les présidents des États-Unis de faire pression en faveur de changements majeurs. L'accord de libre-échange nord-américain de Bill Clinton a été finalisé lors de la réunion de 1994, alors que la décision de Barack Obama de rouvrir les relations avec Cuba a été annoncée au cours du sommet de 2015. Cette fois, le président mexicain refuse d'y prendre part après la décision de Washington de ne pas inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Pour Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, le sommet va bien avoir lieu et abordera des sujets importants comme l'économie, la santé, le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la migration.
Vous pouvez vous attendre à voir des annonces dans ces domaines par le président et des membres de son administration au cours des 3 jours à venir.
À propos du boycott du président mexicain, Karine Jean-Pierre indique que la Maison-Blanche maintient sa décision.
La position de principe du président américain est que nous ne croyons pas que les dictateurs devraient être invités.
Des analystes évoquent un autre problème, le manque d'un ordre du jour bien établi. Ryan Berg est du Centre d'études stratégiques et internationales.
Si l'ordre du jour était vraiment attrayant, nous n'aurions pas vu de tels boycotts de la part de ces présidents, à mon avis. L'absence d'un agenda solide a ouvert la porte à ce genre de coup de théâtre politique.
Un sommet alternatif a eu lieu la semaine dernière avec la participation de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela. Une rencontre au cours de laquelle des dirigeants comme le président bolivien Luis Arce n'ont pas mâché leurs mots.
Nous rejetons fermement l'exclusion des pays frères du 9e sommet des Amériques. Je réitère ma décision de ne pas assister à cette réunion tant que tous les gouvernements des pays des Amériques n'y auront pas été invités.
Des délégués vont tout de même représenter certains des chefs d'État absents. Le président Joe Biden arrive à Los Angeles mercredi pour ouvrir officiellement le sommet, le premier tenu par les États-Unis depuis 1994.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou. politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.